18h15 à Niamey, l'heure du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Anfani FM 100 MHz, Kouartagi FM 90.9 MHz, et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org. Le forum du Studio Kalangou est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens sur des questions d'actualité ou de société. Aujourd'hui, le forum du Studio Kalangou a pour thématique « Journalisme et vocation cas du Niger ». Pour parler de ce qui fâche et de ce qui ne fâche pas dans le secteur, nous avons comme invité la présidente de l'Association des professionnels africains de la communication en abrégé APAC, section du Niger, leader dans le domaine de la communication, Amine Nyandou. Bonsoir.
Bonsoir.
Habou Hadi, journaliste à la Voix du Sahel depuis 2 décennies et enseignant vacateur à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTI. Abou Hadi, bonsoir.
Bonsoir Mokhtar.
Et Albert Chebou, journaliste critique cinéma ayant travaillé dans le premier hebdomadaire indépendant du Niger Haske, mais aussi au Pan-Africain, au Démocrate, etc. Albert Chebou, bonsoir.
Bonsoir Mokhtar.
Dans plusieurs pays, l'information que véhiculent les médias a longtemps été contrôlée par l'État. Au Niger, de 1960 à 1990, l'État avait le monopole. L'ensemble des organes d'information, radio, télévision, agences de presse, y compris les périodiques, lui appartenaient. Les journalistes qui y travaillaient avaient le statut de fonctionnaire. Nombre de professionnels avaient dénoncé cette aberration. En effet, cette période fut caractérisée d'une part par la négation des règles éthiques, professionnelles et déontologiques et d'autre part la prééminence du commentaire complaisant au détriment de l'analyse factuelle. À partir de janvier 90, à la faveur des réformes démocratiques, la chape de plomb se fissure. Le pouvoir autorise l'existence d'une presse privée indépendante. Habou Hadi, comment êtes-vous arrivé dans le domaine de l'information?
Moi, je suis arrivé dans le domaine de l'information pratiquement de façon volontaire. Je ne suis pas dans la presse par hasard ou par défaut. Après le bac, j'ai fait le bac Sciences Éco. J'ai demandé à être orienté dans le journalisme. À l'époque, on orientait les bacheliers. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est au bachelier de choisir ce qu'il veut. Donc, on m'a orienté directement à l'IFTIC. Nous étions pratiquement la première promotion du niveau supérieur de l'Institut de formation aux techniques de la communication. Voilà comment je suis arrivé au journalisme.
En quelle année?
Ça, c'était dans les années 80, précisément en 1982.
Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour y accéder?
Bon, il n'y avait pas de problème à l'époque pour accéder dans une école de formation. Il n'y avait pas assez de cadres à l'époque. L'État formait sérieusement et régulièrement les agents qui sont appelés à travailler pour lui. Il n'y avait pas de problème, aucune difficulté. Nous sommes venus, après le bac, on nous a orientés avec bourse et l'école était là pour nous accueillir.
Et après la formation, il n'y avait pas eu de problème pour le choix du métier ou bien pour accéder au métier, pour être rémunéré?
Non, aucun problème. À l'époque, vraiment, c'était la période des vaches grasses. Vraiment, l'État faisait les choses honnêtement et sérieusement. Dès que tu finis les études, on t'amène dans ta boîte. La vie active commence ainsi. Il n'y a aucun problème, c'est l'État qui prend tout en charge.
Il n'y a pas de gymnastique.
Aucune gymnastique. Je vais voir un tel bras long, ceci, cela. Non, 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 non. Tu as fait journalisme audiovisuel, hein? Radio, télévision. Moi, on m'a orienté directement à la radio.
Donc, avant même la fin de votre formation, vous avez votre boulot qui vous attend.
C'était garanti. C'était garanti avant. Aujourd'hui, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais avant, dès que tu finis les études, ta boîte te cherche. On te cherche même. C'est la boîte qui te cherche. Mais il est où celui-là? On l'attend depuis 3 mois. Il n'est pas venu. On te cherche. Et tu viens, tu commences à travailler.
On n'a pas besoin de bras longs, de connaissances.
Pas du tout. Vraiment, c'était formidable. C'était bien à l'époque. Il n'y avait pas cette question de bras longs, d'appartenance à quoi. Non. Tu es recruté pour toujours. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés au journalisme. Et nous sommes dedans.
Abou Hadi, depuis quelques années, les médias nigériens en général et les médias privés en particulier traversent des périodes extrêmement difficiles. Quels sont les constats qui expliquent toutes ces difficultés?
Très bien. Les médias ont des problèmes. Et vraiment, dans ton chapeau, tu as bien situé le problème. Il y a une certaine évolution au niveau de notre métier, le journalisme. Avant, c'était l'unique employeur, c'était l'État. Mais à partir de 90, les choses...
Le secteur a été libéralisé.
Libéralisé complètement et de manière complète. Tout celui qui veut créer une radio, on lui donne l'autorisation. Vous voulez ouvrir ou créer un journal? Il n'y avait pas trop de paperasse à fournir. Non, le secteur a connu une libéralisation intégrale. Vraiment, le secteur du journalisme. Donc, à partir de là, il y a de nouvelles entités, de nouvelles institutions, les médias privés qui sont venus, les médias communautaires, les médias associatifs, nous qui sommes venus trouver les médias publics ou les médias d'État. C'est ensemble qu'on travaille. Et la population tire un grand bénéfice de notre travail. Que ce soit les médias privés, les médias associatifs ou les médias d'État, en tout cas, la population tire un grand bénéfice de ce que nous faisons comme travail. Parce qu'on se complète, vous le savez. Si moi j'ai dit le président de la République a fait ça, vous allez ajouter quelque chose. Ainsi de suite, l'information, on se complète, on ne se détruit pas. Quelle que soit la quantité ou la diversité des médias, il y a une certaine complémentarité à notre niveau. Donc pour la population... C'est formidable.
Mais pour les organes de presse...
Pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, honnêtement, comme tu l'as dit, c'est la précarité.
Oui, mais qu'est-ce qui explique cette précarité?
Très bien. Les problèmes, je crois, sont nombreux. Quand vous prenez les médias privés, au départ, les gens se sont lancés comme ça, sans les moyens requis. C'est sur le terrain, en travaillant, qu'on cherche les moyens. Pour exister, pour survivre.
Ça, c'est le début des problèmes.
C'est le début des problèmes. On s'est lancé comme ça, sans aucune garantie derrière. Les problèmes ont commencé comme ça. La précarité commence ainsi. Pour les médias d'État, vous savez, l'État a aujourd'hui des difficultés. Et les subventions qu'il donne pratiquement à tous les services...
Ne servent pas grand-chose.
Vraiment, ça commence à... Les subventions... diminuent, ont drastiquement diminué au point où que ça soit.
Pendant que les besoins se multiplient.
Chaque jour, les besoins se multiplient.
Il faut former les agents, il faut acheter du matériel.
Très bien. Donc, c'est ça. Que ça soit donc les médias privés ou les médias d'État, le défi est énorme.
Amine Nyandou, en tant que femme, pourquoi avez-vous choisi de travailler dans les médias?
Merci, Mokhtar, de m'offrir l'opportunité. En tant que femme, je ne sais pas si je peux me permettre de parler de mon statut femme ou homme dans la profession. Je suis venue dans la profession des médias parce que j'aime
l'amour du travail.
Oui, parce que j'avais des prédispositions déjà à faire de la communication.
Dès le début, il y avait la vocation.
Oui, parce que depuis pratiquement mon école primaire jusqu'au collège, jusqu'au lycée, chaque fois qu'il y a des événements dans mes écoles, c'est à moi qu'on donnait la parole pour exprimer les préoccupations des élèves. Et au lycée, c'était comme ça. Au collège, j'étais membre du bureau. Au lycée, la même chose. Donc, je me suis dit que j'avais déjà les prédispositions pour être dans un métier de la communication. Donc, je suis venue dans la profession comme ça. Maintenant, c'est étant dans la profession que peut-être mon statut de femme, en tout cas, peut être lié à certaines contraintes du métier. Mais quand même, je suis venue par vocation. J'aimais déjà ces questions. J'avais des modèles qui m'inspiraient. Des modèles comme Hélène Aïka, la défunte Lucienne Zalagou. Une femme aussi qui m'a beaucoup inspirée, c'est la défunte Awa Ambali. Font partie des personnes, en tout cas, qui m'ont guidée dans ce métier. En plus de ça, la première femme pratiquement journaliste, Mariama Keïta, était une amie de ma tante. Donc, chaque fois qu'elle venait à la maison, je me disais, bon, pourquoi ne pas être comme elle? Vous voyez? Donc, c'est des choses comme ça qui m'ont encouragée à embrasser le métier.
Amine Nyandou, quelles sont les difficultés que vous avez eues à surmonter à l'apprentissage et pendant votre carrière dans ce secteur plein de contraintes, surtout pour la femme?
Je voudrais juste rappeler qu'à l'origine, je n'ai pas commencé par le journalisme. J'ai fait de la maintenance audiovisuelle à l'IFTIC.
C'est surprenant.
Ouais. J'ai un diplôme de maintenance. Après la maintenance, je n'ai pas exercé la maintenance. Du diplôme, je suis devenue opérateur de prise de son. Oui, j'étais sur la console à l'ORTN, à la station régionale d'abord, avant de venir à la Voix du Sahel. Pour vous dire que moi et le journalisme, c'est vraiment une question d'amour. Autant je faisais ces questions techniques, je m'intéressais aux journalistes. Quand les journalistes revenaient de reportages, je m'amusais même à corriger des reportages, tout ça. Quand j'enregistre, je finis, après l'enregistrement, je me permets de dire à certains, bon, moi je trouve que cette partie est mal dite. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut reprendre. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Finalement, je suis repartie faire un master en communication pour le développement et pour être vraiment en plein dedans. Maintenant, concernant les difficultés, elles sont liées à toute notre génération. Parce qu'à partir d'un certain moment, Abou Adi l'a dit, il n'y avait plus de ces questions de programmation pour les postes. Nous, quand on a fini d'étudier, il fallait se battre. On a galéré pratiquement 10 bonnes années à l'ORTEN sans matricule. On était juste des collaborateurs, tout ça. Donc, ce n'était pas facile de s'impliquer. Il fallait se battre. Et là, je me suis battue. Je me suis auto-formée. J'avais beaucoup plus d'ouverture avec des amis et confrères.
Contrairement à tonton Adi Habou.
Oui, oui, qui ont eu tous sur un plateau. Donc, nous, on s'est battus. Moi, je me suis intéressée très tôt à ces questions associatives. Donc, je fréquentais pratiquement tous les confrères. Parce qu'à Pâques, étant membre fondatrice de la Maison de la Presse, donc à travers la Maison de la Presse, je me suis auto-formée. Chaque fois qu'il y a des formations professionnelles, pour les professionnels, j'étais toujours là. Et c'est comme ça que j'ai pu acquérir, en tout cas, ces expertises-là qui me servent aujourd'hui. Pour vous dire que ça n'a pas du tout été facile. Moi, je suis restée à l'ORTEN, en tout cas dans un statut de sous-recrutement même, parce que au moment où l'ORTEN a décidé de nous recruter, il paraît qu'il n'y a pas assez de moyens, donc on nous a sous-recrutés, nous les techniciens. Et finalement, ça fait partie même des raisons qui m'ont poussée au départ. Donc, je suis actuellement en position de détachement. On veut dire que toute notre génération, en tout cas, on souffre. Et jusqu'à présent, ça continue. Et cette souffrance, elle se complique encore plus à cause de notre statut. Parce que nous avons le devoir de concilier nos vies professionnelles à nos vies de famille. C'est ça la complication, en fait, chez les femmes. parce que avec la persistance des pesanteurs socioculturels qui sont là, c'est pas facile pour nous, femmes des médias, d'évoluer. Les femmes qui apparaissent à la télévision ont des étiquettes de femmes légères, machin, tout ça, dans les reportages, tout ça. On a plein de difficultés qui sont liées juste à notre statut de femme. Il y a des femmes qui, par finir même, qui deviennent des divorcées parce qu'elles n'arrivent pas à avoir l'accompagnement des époux et des familles pour être dans le métier. Vous voyez, ça, ce n'est pas au Niger seulement. Hein. Même en Europe, les grandes femmes qui sont reporters, en général, sont des femmes célibataires. Parce que ce n'est pas facile de concilier vie de famille et vie professionnelle.
Amine Nyandou, pourquoi c'est un constat, le pouvoir a tendance à museler ou domestiquer les médias?
C'est un peu de parler de museler. Je vais préférer le mot domestiquer. Moi, je prendrais plutôt dans le contexte de nous professionnels d'abord. C'est vrai que nos médias, il y a une certaine bipolarisation qui est là, hein, très nette.
Soit on est avec le régime ou on est contre le régime.
En tout cas, si, même si on n'est pas contre le régime, si on est dans une position centriste, le pouvoir peut considérer qu'on n'est pas. Donc cette bipolarisation, moi je pense que c'est nous les professionnels qui ont offert ce cadre-là aux politiciens. Parce que si nous n'avons pas accepté de jouer le jeu, cette bipolarisation-là n'allait pas exister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait pu...
Donc ça veut dire que quelque part, certains journalistes ne font pas leur travail.
Oui, quelque part, nous avons quitté notre domaine pour
des
devenir...
journalistes,
oui, pour devenir des militants. Des militants, en fait. C'est ça. Et dans le journalisme, le vrai journalisme ne peut pas se confondre avec du militantisme, quel que soit le secteur de militantisme. Mais nous avons nous-mêmes, en tant que professionnels, décidé de servir certaines causes. Et c'est ça qui a amené beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, la question dont ils parlent pour dire qu'à leur temps, il n'y a pas ces questions de bras longs ou d'appartenance, mais nous, on le vit maintenant. Même pour accéder à un simple poste de secrétaire de rédaction, si vous n'avez pas un appui politique quelque part, ça va être difficile pour vous. Vous voyez? Donc, moi, je me dis que c'est la faute aux professionnels. Nous devons d'abord nous rester dans notre profession, ne faire que de l'information. L'information est basée uniquement sur des faits. Il y a de l'information basée sur l'opinion, mais elle ne doit pas être prioritaire à l'information factuelle. Elle ne doit pas prioriser sur ça. Mais malheureusement, compte tenu de certains constats, ces questions de précarité, ces questions de manque d'entreprise de presse, ces questions de manque de professionnalisme, ces questions de manque de responsabilité globalement dans la profession, on n'arrive pas à le faire. Parce qu'au nom de la survie, certains font autre chose que du journalisme.
Albert Chebou, en tant que pionnier de la presse indépendante, aujourd'hui, quel regard sur la presse nigérienne?
Avant de répondre à cette question, je voulais juste dire que pour moi, le journalisme d'abord a été une passion d'enfance. D'abord, quand j'étais encore jeune, je lisais beaucoup parce que la lecture et l'écriture ont été des hobbies pour moi. Donc quand j'étais déjà au collège, j'écrivais des poèmes, etc. Et quand je suis arrivé au lycée, je faisais la série littéraire et j'écrivais aussi des pièces de théâtre qu'on jouait au lycée. Et à l'université, j'étais dans la commission culturelle et j'écrivais aussi des scénettes, des sketchs et qu'on jouait avec des camarades comme Ben Omar, l'actuel ministre, et l'actuel ministre de la Renaissance culturelle, Assoumana Malam Issa, et d'autres camarades aussi. Donc, et je me rappelle dans un sketch à l'université, j'ai joué le rôle du journaliste de l'AFP. Donc c'était un peu prémonitoire pour moi. Donc j'aimais beaucoup parce que tout jeune déjà, je lisais beaucoup les journaux. Jeune Afrique, Afrique-Asie, la presse française, le Nouvel Observatoire, le Nouvel Obs et beaucoup d'autres, surtout les Canards enchaînés. Quand j'étais à l'université, j'achetais tout le temps le Canard enchaîné parce que j'aimais beaucoup la satire aussi. Alors, quand en 92, Mustapha Diop, qui est cinéaste, est venu dans le journalisme pour lancer le premier satirique nigérien, Le Pan-Africain. Tout de suite, j'étais très intéressé par ce journal satirique
et je, chaque fois j'achetais, je lisais.
Vous achetez aussi ?
Oui, j'étais étudiant encore, donc je faisais la sociologie. Et comme j'ai l'habitude de dire, ce sont les aboiements d'un chien philosophe qui m'ont amené au journalisme. Je m'explique. Dans le pan africain, il y avait une rubrique qui s'appelle City, le chien philosophe. Donc c'était une rubrique où il y avait des tournures philosophiques pour essayer un peu de critiquer certaines choses dans notre société, etc. Et chaque semaine, moi je répondais à ce personnage, à ce chien philosophe. Et beaucoup de lecteurs s'intéressaient à ce que j'écrivais moi-même. Et Mustapha Diop fait une annonce dans son journal pour dire à ce Albert Chebou, il faut qu'il passe à la rédaction, nous avons besoin de lui. Donc c'est comme ça, très bizarrement, et c'est très marrant, hein, vraiment je suis arrivé au pan africain et j'ai commencé mes premières armes donc, au pan avec Mustapha Diop. Et c'est là aussi que j'ai eu la passion du cinéma africain, parce que Mustapha étant
cinéaste,
des pionniers du cinéma nigérien et de, même du cinéma africain, donc il m'envoyait chaque fois couvrir des projections, des films, etc. Et j'ai été aussi la première fois, en 1995, couvrir une édition du FESPACO. Donc, après, bon, j'ai fait une formation en critique de cinéma. Et je suis membre de la Fédération africaine des critiques de cinéma. Et on avait animé aussi le quotidien Ciné, AfriCiné, où j'écris, j'ai fait la critique de films en compétition pendant le FESPACO. Bref, donc voilà un peu comment je suis entré dans le journalisme. Donc, en 1993, je suis arrivé donc dans la presse. En ce moment, il n'y avait pas beaucoup de journaux au Niger. Parce qu'il faut le dire, hein, la presse indépendante a véritablement commencé en 1990 avec Haske, donc, qui a ouvert un peu la brèche. Et après Haske, il y a eu le Républicain, le Démocrate, le Pan, Moustique. Et puis, petit à petit, il y a eu une floraison des titres.
Des médias.
Alors, nous, en ce moment encore, il n'y avait pas les radios. Hein. C'est, je crois que la première radio privée, c'était en 1994 avec RM. Donc, les gens étaient très accros de la presse écrite, des journaux. Et je voyais même à cette époque-là des politiciens qui venaient dans les rédactions pour chercher eux-mêmes à être interviewés, pour dire des choses, etc. Et les gens participaient, les lecteurs aussi participaient au débat parce que c'était des espaces quand même de liberté qui étaient créés, etc. Donc, il y avait vraiment une passion parce qu'il faut aimer ce métier pour le pratiquer dans les règles qui sont vraiment les siennes. Donc, et nous, on avait cette passion de pratiquer ce métier. Ce n'était pas vraiment pour chercher à s'enrichir ou chose. Alors, maintenant, plus de deux décennies après, je constate que malheureusement, les contenus n'ont pas évolué de façon qualitative. Parce que c'est quoi ? Tout à l'heure, même Abou Hadi disait, parce qu'on a créé des entreprises de presse. Malheureusement, c'est pas,
c'était y avait pas accompagné.
Une base financière. Donc, du coup, les gens se sont laissés manipuler par les politiciens, etc. Parce que les politiciens ont envie quand même des médias. Donc, voilà. Donc, ce qui a fait que ces entreprises n'ont pas beaucoup évolué et ceux qui travaillent dans ces entreprises ne sont pas bien rémunérés. Du coup, l'indépendance aussi de ces organes-là prend un coup. Donc, et ça joue sur la production de l'information, etc. Du coup, aujourd'hui, on constate que, d'ailleurs, quand vous regardez, on a mal géré, je dirais aussi, tous les pionniers de la presse même écrite hein, au Niger, ont mal géré leur entreprise. Aujourd'hui, Haske, qui a été le premier journal indépendant, et qui a eu jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de tirage. Mais aujourd'hui, ce journal n'est pas dans les kiosques. Hein? Il y a eu d'autres journaux comme Les Démocrates, n'est pas dans les kiosques. Hein? Il faut se poser des questions. Pourquoi ? Ça a été mal géré, en fait. Donc, on n'a pas géré ces entreprises-là, ces médias-là, comme des entreprises véritablement de presse. Et on continue. Et beaucoup de gens créent tous les matins, tu vois. Aujourd'hui, quand je regarde un peu la revue de la presse sur certaines chaînes, je vois beaucoup de titres. Mais quand vous regardez, souvent, il y en a qui n'ont même pas de siège, à plus forte raison de personnel et de personnel rémunéré, etc. Il n'y a même pas de contrat de travail. Hein? La convention collective n'est pas signée. Les patrons de presse refusent. Hein? Donc, les journalistes travaillent dans des conditions vraiment précaires.
Albert Chebou, comment expliquer ce désir, vous l'avez rappelé, ce désir et où cette tentative effrénée des différents pouvoirs de mieux contrôler les médias d'État et même ceux du indépendant?
Ce qui m'a frappé, pendant la première transition démocratique du Niger, au sortir de la conférence nationale, les médias étaient très libres. Même la presse publique. Je me rappelle le Sahel dimanche. Le Sahel, que ce soit la Voix du Sahel, que ce soit Télé Sahel, il y avait un ton très libre au niveau des journalistes. Je me rappelle même, il y a eu une grève au niveau de la presse publique où les journalistes demandaient que la censure cesse dans les médias publics. Et ces médias faisaient la concurrence à la presse indépendante, qui était beaucoup encore plus libre. Donc, malheureusement, ça s'est émoussé, tout ça, après cette transition démocratique. Quand il y a eu la Troisième République, les politiciens qui sont arrivés au pouvoir et qui avaient dit qu'à l'époque, qui avaient chanté qu'ils étaient des forces de changement, qui sont sortis de la conférence nationale, etc., se sont accaparés des médias publics. Vous voyez ? Donc, il y a l'intrusion du politique dans les rédactions et maintenant, ça s'est perpétué. Chaque régime qui vient essaie de récupérer les médias publics d'abord et en même temps aussi avoir une partie de la presse privée. Parce qu'ils vont, aujourd'hui, il faut dire les choses clairement, il y a même une cellule qui s'occupe d'un certain nombre de
des médias privés,
juste pour chanter les louanges du régime en place. Et ça, franchement, pour des gens qui disent qu'ils sont des démocrates, c'est très regrettable. Et je crois que les médias doivent arrêter d'être manipulés par les politiciens parce que si vous voulez faire ce métier-là, il faut le faire dans le respect des règles d'éthique et de déontologie. Si vous ne pouvez pas le faire, il faut faire autre chose.
Albert Chebou, faire autre chose. Quel est le chemin parcouru dans le paysage médiatique nigérien de 90 à nos jours?
Non, justement, j'ai dit qu'on est en train de régresser. On est en train sérieusement de régresser. Je vous ai dit tout à l'heure que pendant la première transition démocratique, les médias publics même étaient des médias qui avaient un ton assez libre, etc.
Mais aujourd'hui, on constate que même certains médias indépendants ne sont pas libres.
Et la presse indépendante aussi, à l'époque, en tout cas dans les années 90 et tout, il y avait quand même des journaux de qualité. Il y avait des contenus de qualité, etc. Les gens faisaient un travail de qualité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et on crée les journaux, les radios, les télévisions. Il y en a plein. Au lieu que les gens essaient de se mettre ensemble pour faire une sorte de jumelage, de réunir leurs efforts, de mutualiser leurs efforts, leur intelligence, leurs moyens pour faire des médias de qualité. Quand je regarde aujourd'hui Studio Kalangou, c'est un exemple quand même. C'est vrai que vous avez peut-être des soutiens, mais si les promoteurs des radios, des télévisions ou des journaux se mettaient ensemble, faisaient une sorte de jumelage, je pense que ça serait moins que ce qu'on voit aujourd'hui. On se disperse, on crée des semblants d'entreprises. On ne paye même pas le personnel. Et les gens, quand tu n'as pas de salaire, comment tu peux être indépendant?
au Niger, même s'il faut se réjouir de la réelle contribution des médias à l'information, la distraction et à l'éducation des citoyens, il faudrait reconnaître que le paysage médiatique, de manière générale, présente un visage souvent un peu reluisant, avec une succession d'effets ne participant pas à redorer le blason de la presse. Cette situation qui s'assimile à une crise que connaît la presse nigérienne est aussi le reflet des faits marquants de son histoire, laquelle s'inscrit dans celle du Niger. Une crise qui aurait été exacerbée en partie par l'avènement de la démocratie ayant favorisé le multipartisme politique et la politisation à outrance de notre société qui traduit la diversité d'opinions, mais aussi le non-respect des règles éthiques et déontologiques du métier. L'hostilité économique ne facilite point la vie à certains journaux devenus irréguliers avec une forte tendance à disparaître des kiosques. Amine Nyandou, vous avez quelque chose à dire rapidement?
Oui, c'est par rapport au constat de Albert par rapport à cette question de la nécessité de mutualiser nos efforts pour arriver à des vraies entreprises de presse. Je voudrais juste rappeler que nous, quand on était à la Maison de la Presse, quand on était membre du bureau, nous avons commandité une étude pour regarder qu'est-ce qui ne va pas dans les médias privés, publics. Hein. On a commandé l'étude pour voir qu'est-ce qui empêche nos entreprises de fonctionner. Le premier constat était qu'il n'y a pas une différence entre les questions de l'information et les questions commerciales. Il n'y a pas de différence dans les médias publics et les médias privés. Parce qu'au Niger, c'est le seul pays où même ceux qui n'est pas vendu vendent l'information. Dans tous les pays, c'est du service public. Mais au Niger, il y a beaucoup d'informations qui sont vendues, qui ne sont pas du service public. Donc, il faudrait que les recommandations issues de l'étude étaient qu'il faudrait que les organes publics et privés reviennent d'abord à leur mission de service public. Un. Deux, qu'ils installent des unités commerciales de marketing, de comptabilité pour mettre en place vraiment une vraie comptabilité pour pouvoir rémunérer le personnel de façon convenable. Et trois, la dernière recommandation, c'est cette question de mutualisation. Aujourd'hui, nous avons plus de 60 titres pour les journaux privés. Les groupes, nous avons à peu près 10-11 groupes de radio et télévision. Mais bon Dieu, pourquoi ne pas se mettre ensemble, créer des vraies entreprises et avec un minimum de personnel? Aujourd'hui, ce qu'il a dit, nous, on regresse. Maintenant, il faudrait que nous évoluions avec la dynamique aussi d'évolution de la profession, avec ces questions de numérisation et autres.
Amine Nyandou, pourquoi les étudiants ne s'intéressent pas à la presse écrite et surtout les femmes?
Oh, la presse écrite, c'est un secteur fastidieux, comme on dit. Et aujourd'hui, si on prend les statistiques de l'IFTIC, plus de la moitié des élèves formés à l'IFTIC sont des femmes. Plus de la moitié qui sortent de la profession. Maintenant, la section presse écrite à l'IFTIC, là, elle a même disparu. Je pense que cette année-là, je ne pense même pas s'il y a des étudiants en presse écrite à l'IFTIC. Il n'y en a pas. J'ai vérifié, on m'a dit qu'il n'y en a pas. Ça fait au moins 5 ans où si on trouve ces deux élèves dans la presse écrite, même côté homme, hein, à plus forte raison chez les femmes. Parce que la presse écrite demande plus d'efforts. Réfléchir, en tout cas, tu ne peux pas venir inventer des choses et ça demande plus d'efforts. Pourquoi les filles se tournent plus à l'audiovisuel? Parce qu'elles sont attirées par cet esprit de végétariat, on apparaît à la télé comme présentatrice, machin, des trucs comme ça. Bon, ça veut dire aussi que, en réalité, les femmes ne veulent pas se fournir d'efforts. C'est pour ça qu'elles évitent la presse écrite. Et la seconde raison aussi, c'est que la presse écrite ne nourrit pas. En tout cas, ne nourrit plus, en tout cas, ceux qui font de la vraie information. Les questions de société, parce qu'il n'y a que le sensationnel, le politique. Maintenant, on a une race de journaux qui est là, où tout le journal est écrit par une seule personne, il change de pseudonyme. Quelle est la pertinence?
Amine Nyandou, tout de suite, vous avez abordé la question du numérique. Et tout le monde s'accorde à reconnaître l'importance du développement du numérique. Comment réinventer la presse nigérienne pour qu'elle s'adapte à l'évolution de la société?
Réinventer la presse va commencer par la formation. à mon avis, c'est la formation qu'il faudrait commencer. Parce que aujourd'hui, moi, je verrais très mal un journaliste qui ne puisse pas lui-même, en tout cas, saisir son article. Ça n'a pas de sens. Il faudrait que la personne soit capable elle-même d'écrire son article, elle-même de prendre ses photos, elle-même de publier, tout ça. Donc, il y a la question de la formation qui est là. Il faut qu'on se mette à niveau, ça c'est un. Deux, il faut aussi commencer à réfléchir comment légiférer sur cette question-là. Tout récemment, en France, j'ai vu qu'ils ont voté une loi qui protège les auteurs. Avant, les gens ils publiaient leurs chansons sur YouTube sans gagner quelque chose. Mais maintenant, quand tu publies, tu as des droits d'auteur par Internet. En tout cas, il y a un système qui te récupère un peu d'argent. Pourquoi ne pas réfléchir à ces questions-là si ton journal est repris, que tu aies des droits d'auteur ou moins. En tout cas, il faudrait vraiment que les gens se forment aux nouvelles techniques d'information et de communication, hein, et aussi que côté législation, que le Conseil supérieur de la communication ou le ministère de la communication réfléchissent à comment légiférer sur la presse électronique globalement. Parce que légiférer les réseaux sociaux aussi, c'est aussi une autre paire de manches. Mais au moins faire de la législation au niveau de la presse électronique.
Abou Hadi, vous avez quelque chose à ajouter rapidement?
Oui, Mokhtar, c'est pour dire par rapport à ce que Ami vient
de soulever,
que la formation est importante. Quel que soit le métier que vous exercez dans cette vie, il faut se former. C'est très important. Au niveau des médias, effectivement, il y a des efforts qui ont été faits pour la formation. Et je voudrais revenir sur la presse écrite qui est en train de mourir ou de régresser au niveau de l'IFTIC. Effectivement, c'est ce qu'on a constaté. En plus des raisons que Ami a soulevées, il y a également cette histoire d'Internet qui est en train de coûter cher à la presse écrite. Aussi, vous avez dit quelque part que la presse est en crise à cause de, je crois, la démocratie. Non, je crois que la démocratie est un stimulus pour la presse, pour les activités de réflexion, de progrès et d'augmentation de connaissances. C'est très important. La presse nigérienne, elle n'est pas en crise. Elle est vraiment dans son rôle. Elle doit refléter la société nigérienne. La presse nigérienne reflète la société dans laquelle nous vivons.
Hein? Donc, vous venez dans une société dégringolade?
Non, pas la société. La société nigérienne est en progrès. Nous progressons. Par rapport à 90, il y a eu beaucoup de choses. Regardez comment on prend le son aujourd'hui, comment on le monte.
Par réseau, alors qu'avant c'était dans les clés, dans les disques et autres là.
Maintenant
c'est à travers les réseaux.
Voilà.
Hein? Internet,
c'est un progrès, Mokhtar.
C'est un programme. C'est un progrès.
On n'est pas en dégringolade là. On est en train d'avancer.
Quand on faisait le journal, c'était vraiment de façon, je dirais, artisanale. Hein, le montage, hein, pour faire le montage du journal, c'était vraiment un truc artisanal. Et vous partez à l'imprimerie, c'est la même chose. Le traitement des photos, c'est vraiment artisanal, etc. Donc aujourd'hui, entre 90 et aujourd'hui, les choses ont vraiment évolué. Avant, on utilisait les disquettes, là. Aujourd'hui, ce sont des clés. Aujourd'hui, tu as ton journal directement de ton bureau. Tu envoies le journal à l'imprimerie. Oui, à l'imprimerie. Donc ça, ce sont des choses vraiment qui facilitent le travail des journalistes. Malheureusement, les conditions se sont améliorées. Hein? Les outils de travail, ce sont vraiment c'est des trucs de qualité, de machin. Mais la production, le contenu, malheureusement, ne sont pas de qualité. Et ça, c'est personnel. Les journalistes, les promoteurs des organes de presse doivent faire un effort d'abord de former bien les journalistes, mais les journalistes, eux aussi, doivent faire un effort parce que le métier de journaliste, c'est un métier qui exige une culture générale, qui exige de la personne de s'informer régulièrement, quotidiennement sur ce qui se passe dans son pays et dans le monde. Donc c'est un travail vraiment très exigeant. Donc le journaliste doit répondre à ces exigences.
Vous avez épuisé votre temps, Albert Chebou, rapidement.
Voilà, juste un mot. Le journalisme est exigeant. Nous l'avons dit depuis le début de cette émission. Et en plus, Il y a beaucoup de travail, mais il n'y a pas beaucoup de finances. Le salaire est petit.
Comment faire pour que le métier nourrisse son homme rapidement?
Bon, le métier, il nourrit son homme présentement, mais ça avec beaucoup de précarité, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Moi, je pense qu'il nous faut une stratégie de survie. Et ça, il faut qu'on se retrouve ensemble. Hein? Médias d'État, pas...
Vous parlez des états généraux de la presse?
De la presse, un peu plus que ça. Un peu plus que ce qu'on a, on se retrouve pour les états généraux, on applaudit des têtes. Non, moi je pense qu'il faut trouver d'autres voies plus originales pour le financement de la presse.
Vous avez quelque chose à ajouter, Amine Nyandou, rapidement?
Oui, je vais continuer là où il s'est arrêté pour dire que les stratégies, elles sont incontournables. Il faut qu'on en trouve pour que nous survivons. Moi je pense qu'il faudrait, dans le cadre de la formation, arriver à avoir des personnels polyvalents. Aujourd'hui, si on a quelqu'un qui peut en même temps servir à la caméra, en même temps être le réalisateur, machin, ça va réduire les charges de personnel au niveau des entreprises. Ça, c'est un. Deux, il faudrait aussi améliorer les contenus. Vous n'êtes pas sans savoir que nous allons bientôt migrer en télévision numérique terrestre. Si la question, si les contenus ne sont pas améliorés, il y a des médias qui vont disparaître complètement. Il faut que ça, la question des contenus soit améliorée et ça exige des efforts. Il faut qu'on se cultive, il faut que le journaliste soit, en tout cas, à jour. Aujourd'hui, c'est grave, on trouve dans en conférence de rédaction, on vient avec des journalistes qui ne sont même pas au courant de la une à l'international. Ça n'a pas de sens. Il faudrait qu'on se mette à jour, qu'on fournisse plus d'efforts que les citoyens ordinaires, parce que c'est ça notre rôle, d'être un peu plus au-dessus des citoyens ordinaires. Oui. Et il faudrait aussi qu'au niveau étatique, en tout cas au niveau macro, comme on dit, qu'on arrive à mettre des mesures d'accompagnement pour accompagner les journalistes à de la professionnalisation, au respect d'éthique, des règles d'éthique et de déontologie. Et surtout aussi, nous, en tant que professionnels, qu'on se réunisse pour réfléchir et essayer d'assainir entre nous. Parce que nous sommes fixés des règles d'éthique et de déontologie. C'est à nous de les observer. Celui qui n'est pas prêt à les observer, que nous ayons le courage, nous, en tant que professionnels, d'éliminer ces genres de personnes pour que nous retrouvions nos règles d'or, comme on dit.
Albert Chaibou, rapidement.
Tout à l'heure, tu posais la question si la presse nourrit son homme. Je dirais qu'au niveau des médias publics, ceux qui travaillent sont peut-être qu'ils ont un statut de fonctionnaires, ils ont des salaires qui sont payés par l'État, etc. Mais au niveau des médias privés, les gens travaillent dans la précarité. Et ça, il faut le dire, parce qu'il n'y a pas de contrat de travail dans la plupart des organes de presse et il n'y a pas la convention collective interprofessionnelle. Donc du coup, les gens n'ont pas de contrat de travail, ils n'ont pas la sécurité sociale, ils vivent vraiment dans l'insécurité totale. Donc, c'est ce qui fait que leur indépendance aussi prend un coup. Parce que quand vous n'avez pas de salaire, c'est sûr que ce n'est pas évident que vous soyez véritablement indépendant.
Le débat est intéressant, mais nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec Habou Hadi, journaliste à La Voix du Sahel, enseignant vacateur à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Albert Chaibou, journaliste indépendant et pionnier de la presse nigérienne. Nous étions également avec Amine Nyandou, présidente de l'Association des professionnels africains de la communication APAC Niger. Merci à nos invités et merci à vous tous de votre fidélité au programme du Studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.